Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Au programme cette semaine, des Good Gone en costume de lumière et de paillettes pour honorer le passage de cette nouvelle année comme il convient. Oui, il y a des traditions importantes auxquelles les Gone ne dérogent pas. Le sapin, la dinde, le nœud pape et les robes brillantes pour la Saint-Sylvestre. On ne vous dira pas qui porte quoi et si la dinde a une robe à paillettes. Car ça, il faudra l'imaginer et on vous fait confiance. Au sommaire, une dernière émission avant les vacances méritées en cette 52e semaine de l'année. Pas question de causer dans le poste, on va plutôt se gaver de papillotes. On est tous d'accord sur la question. Notre premier invité a un nom qui fait voyager et a écrit un livre pour le jeune public dont elle rêvait depuis longtemps. Bref, elle a réalisé un rêve et ça, c'est un truc qui fait du bien. Elle se nomme Lilith Guégamian et son roman s'intitule « Les peuples du soleil de l'autre côté du ciel ». Guillaume nous parlera des nuits givrées de Dardilly et Gaëlle a coiffé une nouvelle fois son célèbre chapeau d'explorateur à la Indiana Jones pour nous entraîner sur les pas de Toutankhamon à la découverte du pharaon oublié. Et c'est à la sucrière. Bien sûr, il y aura nos Gédéons juste après un petit jingle. On débute avec Lilith Guégamian que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Lilith Guégamian, bonjour, on se rencontre pour parler de votre premier roman, Les Peuples du Soleil, qui viennent de paraître. Allez nous raconter cette belle histoire, puisque c'est un livre que vous portez depuis 40 ans, depuis que vous avez 10 ans. Vous allez nous raconter un petit peu cette épopée de science-fiction poétique, comme vous l'a dit une de vos lectrices. Peuple du Soleil raconte une histoire qui nous fait penser, avec cette actualité bien sûr, à Avatar, c'est-à-dire des mondes parallèles, des exoplanètes qui sont encore inconnues finalement de l'homme. Mais ici, le roman est plutôt orienté jeune public, hein, n'est-ce pas ?
Alors oui, jeune public, j'ai mis de 11 à 177 ans, donc à partir de même 9-10 ans, j'ai mis 11 parce que le livre était bien, mais ça peut être 9 parce que j'ai un petit lecteur de 9 ans qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé. Donc, mais pour les plus grands aussi, parce qu'il y a différentes lectures, hein, notamment avec une des planètes qui s'appelle Luxmos, celle qui est la plus proche du Soleil et où les habitants sont des êtres de lumière avec des pouvoirs. Il y a un tout petit côté spiritualité, alors avec de grands guillemets, hein, mais donc je pense qu'il peut vraiment y avoir plusieurs lectures. Alors l'histoire de ce roman, donc j'avais une dizaine d'années quand elle est venue, c'était d'abord seulement une autre planète et la Terre, et sur cette autre planète, les habitants avaient des ailes et donc venaient sur la Terre, quelques-uns d'entre eux, et vous souhaitaient repartir mais n'y arrivaient pas. Ça a beaucoup beaucoup évolué et maintenant donc il y a 5 planètes dont la Terre et puis 4 autres planètes, et sur chaque planète il y a des pouvoirs différents, des ailes sur une des planètes, des grands talents artistiques on va dire sur une des autres, des êtres de lumière au corps ovoïde violet et avec de grands pouvoirs sur une des autres planètes, et puis une planète loin, la plus éloignée, où pour l'instant qui a été exclue des peuples du soleil. Voilà un petit peu. Et puis l'histoire donc commence par un court prologue entre deux enfants, donc Eléi et Luna, qui sont sur Nieba, qui ont des ailes, qui sont très très proches, très amies, mais Luna doit partir sur la Terre avec ses parents pour un an. Ils sont très tristes, donc c'est en quelques lignes le prologue, et le chapitre 1 commence 7 ans plus tard. Luna et ses parents ne sont jamais revenus sur Nieba. Ça commence sur Nieba quand le jeune Eléi se réveille un matin et que ses meilleurs amis de la planète Zartos lui disent que dans la bibliothèque infinie, où tous les ouvrages de toutes les planètes apparaissent, même tout ce qui est écrit tout simplement, ils ont vu dans cette bibliothèque infinie un texte écrit par une certaine Luna de la Terre qui se souvient qu'elle vient d'une autre planète, etc. Donc ça part de là, ils vont avoir qu'une envie, c'est d'aller sur la Terre, il va y avoir un conseil interplanétaire. Et donc 4 habitants des différentes planètes vont aller sur la Terre à la recherche de Luna. Voilà l'histoire.
Alors, les peuples du soleil, on voit bien, notamment dans cet univers, cette idée aussi de rencontre de l'altérité, peut-être pour mieux comprendre finalement qui on est. Quand on porte un roman aussi longtemps comme ça, quand on voit se réaliser les choses, ces 350 pages, qu'est-ce que ça fait ?
Ah bah c'est hyper touchant, je crois que je vais mettre du temps encore à le réaliser parce qu'il est sorti le 10 novembre et je ne réalise pas encore tout à fait. Quoi. Donc, bon, il ne va pas me falloir 40 ans pour réaliser, je pense, mais non, c'est génial. Ouais, je vous dis, je ne réalise pas tout à fait encore. Et, voilà.
Alors la belle histoire aussi, c'est que ce roman est sorti pour l'instant à compte d'auteur. L'idée, c'est bien sûr d'en vendre un certain nombre d'exemplaires pour pouvoir en écrire un prochain. Pourquoi pas ? Parce que vous portez en vous plusieurs tomes.
Oui, tout à fait. Donc, cette histoire va se résoudre, la recherche de Luna va se résoudre, mais on va apprendre des choses sur les autres planètes. Il y a beaucoup de choses qui vont amener à des résolutions aussi. Donc, pour les prochains tomes, oui, j'espère bien, vraiment.
Alors, on parlait tout à l'heure d'Avatar, l'influence, pourquoi pas, des univers différents, des planètes de James Cameron, parce que, bon, finalement, c'est d'actualité. Mais quels sont les auteurs qui vous ont inspiré ?
Donc en fait, si je reviens vraiment à l'enfance, et c'est un petit clin d'œil sur la couverture, Le Petit Prince a été ma lecture de chevet pendant, enfin, et encore aujourd'hui, vraiment mon livre préféré s'il devait y en avoir un, d'où la petite écharpe du jeune homme blond et le fait qu'il soit blond aussi sur la couverture. Mais sinon, donc plus tard, bah, c'est bien évidemment Harry Potter, J.K. Rowling et Pierre Bottero, dont j'aime aussi beaucoup l'œuvre, qui d'ailleurs est citée. Il y a même, alors je ne vais pas spoiler comme on dit, mais il y a tout un chapitre qui est très lié à un livre de Pierre Bottero. Donc voilà, ces deux auteurs-là, jeunesse, m'ont beaucoup influencé, je pense, ces dernières années. Ouais.
On va citer bien sûr les éditions.
Donc c'est Librinova. Donc effectivement, c'est à compte d'auteur dans le sens où plateforme, un site que l'on paye pour que pendant un an, le livre soit disponible sur toutes les autres plateformes, c'est-à-dire qu'il est disponible chez Amazon, Fnac, De Citre et compagnie. Et dans toutes les librairies, on commande. Donc ça permet de faire qu'il puisse être partout. Et effectivement, si j'arrive à en vendre 1000 en un an, un agent littéraire de Librinova qui travaille avec des éditeurs, Flammarion et autres, voilà, cherche à partir de 1000 ventes un vrai éditeur. Donc c'est vraiment mon objectif d'atteindre ces 1000 ventes.
Alors on vous le souhaite évidemment. Est-ce que vous faites des signatures, des lectures ? Parce que quand on connaît l'autrice, quand on la voit, quand on l'entend finalement lire une partie en fait des passages, vous êtes de Villefranche-sur-Saône, on ne l'a pas dit, mais vous êtes professeur de musique, plus précisément de guitare au conservatoire de Villefranche-sur-Saône. J'imagine que vous avez déjà signé dans des librairies de Villefranche. Est-ce qu'il y en aura à Lyon ?
Oui, alors j'ai eu 4 moments de signature. Pour l'instant, je peux les compter. Je pense qu'au bout d'un moment, je ne pourrai plus. Donc en fait, j'enseigne à Villefranche et j'habite dans l'Ouest lyonnais. Donc j'ai fait 2 signatures, enfin une dans une librairie de Villefranche, la librairie des Marais, une à Craponne, la librairie Le Jardin des Lettres. Je fais un marché de Noël à Vaugneray et le 8 décembre, une soirée à la médiathèque de Vaugneray aussi. Donc une prochaine séance de dédicace à la librairie Develay à Villefranche le samedi 21 janvier. Et le lendemain, dimanche 22, il y a une foire au livre, au salon du livre, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, à Trévoux, le 22 janvier. Donc, c'est les 2 prochaines dates de signature. Et effectivement, donc, c'est tout nouveau hein, pour moi, mais ces 4 expériences ont été super. Donc, à chaque fois, j'ai un petit peu raconté, j'ai fait des grandes affiches avec les planètes dessinées pour expliquer aux personnes de quoi il s'agissait. Et vraiment, c'était chouette. Et j'avais aussi ma guitare. J'ai essayé de faire quelque chose en lien avec la musique aussi. Et en fait, ce que j'ai proposé, c'est une dédicace musicale. C'est-à-dire que j'ai fait les 5 planètes sur des petits cartons, en les retournant, bien sûr, et chaque personne pouvait tirer au hasard une des planètes. Et moi, j'ai associé une petite musique à chaque planète. Et donc, quand la personne tirait une des planètes, bah, je lui jouais la musique associée. Voilà.
Ah, c'est original, effectivement, comme type de rencontre. Est-ce que, si je vous demandais en fait, de lire un tout petit extrait aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous liriez, par exemple, quelques mots pour nous faire entendre justement vos mots ?
Donc je peux lire le petit passage qui a été trouvé dans la Bibliothèque Infinie et qui fait penser que la Luna qui a écrit est bien celle qui était partie de Nieba, se posa doucement au bord de la rivière d'Icar, face à la petite cascade. C'est là qu'il venait pique-niquer enfant avec sa mère et son père. son père qu'il n'avait pas vu depuis presque 7 ans. Les joues baignées de larmes, Eléi finit par s'endormir dans l'herbe, serrant toujours au creux de sa main le petit papier griffonné. « Je m'appelle Luna, j'ai 13 ans. J'habite quelque part sur une drôle de planète qui porte le nom de Terre. On y trouve des forêts, des montagnes, des rivières et même des océans. Moi, aussi loin que je regarde, je vois des immeubles sales, des voitures, des gens qui crient, qui mentent, et je ne me sens pas de ce monde. Je n'ai pas de souvenirs précis de mes premières années, juste des images floues qui à la fois me font du bien et me donnent envie de pleurer. J'ai l'impression d'avoir vécu ailleurs. Tout était très coloré, doux et chantant. Il n'y avait que de grandes et belles personnes qui me regardaient, m'écoutaient, m'offraient à travers leur regard un amour infini. Où est passé ce monde ? Et puis il y avait ce garçon aux yeux verts, ses yeux rieurs et cette phrase que l'on se répétait. C'est flou et en même temps tellement présent.
Merci beaucoup Lilith Guéganian, c'était un Les Peuples du Soleil qui vient de paraître. Eh bien écoutez, on va vous suivre, on espère en tout cas que vous allez gagner ce pari. C'est un joli rêve qui s'est réalisé en tout cas pour ces fêtes de fin d'année. Je vous remercie infiniment Lilith.
Merci beaucoup à vous, vraiment, merci.
Nous poursuivons notre émission avec toi, Guillaume, et un festival givré, complètement givré, à Dardilly.
Tout à fait, effectivement, le festival Les Nuits Givrées de Dardilly, donc à l'Aqueduc de Dardilly, aura lieu les 26, 27 et 28 janvier. Pourquoi je m'attarde là-dessus ? C'est que d'habitude, ce festival dure 2 jours, et puis là, c'est 3 jours. Et vraiment, ça mérite de s'y attarder, parce que la programmation qui gagne une soirée gagne aussi cette année, je dirais, en qualité. Je ne dis pas que ce n'était pas bien avant, mais là, vraiment, il y a des artistes que personnellement, j'apprécie énormément. Et donc, on va un petit peu écouter et voir un petit peu quels sont ces artistes. Alors, on aura un artiste qui est déjà venu aux Nuits Givrées, qui s'appelle Albin de la Simone, qui est un artiste qui chante en français et qui là viendra pour un spectacle un peu particulier puisqu'il sera accompagné de ses amis de l'ensemble Contraste. L'ensemble Contraste, c'est un sextet de musiciens. Il y a un trio à cordes plus une clarinette, un saxophone et un piano. Alors j'ignore s'ils seront tous là, mais en tout cas, il y aura au moins des cordes et qui vont magnifier un petit peu et le répertoire d'Albin de la Simone et des chansons d'autres artistes qu'il va chanter. Et on va écouter tout de suite un premier titre puisqu'il va interpréter Ma gueule, la célèbre chanson de Johnny Hallyday qu'il n'a jamais écrite évidemment puisque Johnny n'a que très peu écrit de chansons. Voilà, on écoute Ma gueule par Albin de la Simone et l'ensemble Contraste.
Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit, on va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis, on cherchait plutôt des amis. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout. Sans elle, je n'aurais jamais plané. Sans elle, je vaudrais pas un clou. Ma gueule a bien le droit de rêver. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? de galère en galère. Elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, irridée. Elle ne m'a pas lâché du nombre. Quand j'avais mal, elle pleurait. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle. Au moins, elle est fidèle. Pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux même pas en parler, une qui se fout bien. Ma gueule.
Donc c'était Ma gueule par Alain de la Simone et l'ensemble Contraste. Je vous rappelle quand même juste les petites anecdotes autour de cette chanson. Elle a été écrite par un monsieur qui s'appelle Gilles Thibault, qui a quand même écrit un petit truc, une petite rengaine, comme d'habitude, un truc qui n'a pas vraiment eu de succès, à tel point qu'on l'a traduit en anglais, c'est devenu My Way par Paul Anka. Et Ma gueule ne devait pas être chantée par Johnny Hallyday. En fait, cette chanson devait être chantée par Alice Sapritch, qui quand même a une autre gueule que Johnny Hallyday, il faut le dire. Et puis finalement, eh bien, ça sera pour Johnny, parce que lors d'une rencontre un petit peu impromptue au restaurant chez Castel, eh bien, Gilles Thibault en fait, assiste à une altercation de Johnny avec un spectateur, enfin un fan, et lui lui répond, ben, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Et donc ça lui rappelle ce texte qu'il avait laissé dans son tiroir, il le ressort et Johnny va en faire un succès. Donc, pour revenir au Nugivré, Albin de la Simone, ça va être quelque chose d'assez magique, parce que c'est un monsieur d'une humanité assez incroyable. Mais il y aura d'autres artistes, puisqu'on va aussi avoir une artiste féminine qui s'appelle Marcia Higelin. Alors évidemment, Higelin, on connaît, hein, on connaît surtout son grand-père. Marcia, c'est la fille d'Arthur Ashe et d'une bassiste, Alexandra Mikhailovna, et elle vient de sortir un EP, un premier EP 6 titres qui s'intitule Prince de Saba. Donc ça va être quelque chose, c'est vraiment quelqu'un sur scène qui envoie, quoi. Mais bon, c'est peut-être l'atavisme familial, mais vraiment il y a un grand talent dans cette famille, et donc on écoutera avec attention Marcia Higelin. Alors je sais pas, c'est peut-être moi, Marcia Baila. Bon, ils ont peut-être beaucoup écouté ceux que vous connaissez. Bon, passons. On va poursuivre avec d'autres artistes de la programmation. Florent Marchais, on a déjà évoqué son album extraordinaire qui pour moi est l'album français de l'année, Garden Party. Alors c'est l'album français, mais il s'intitule Garden Party. Il chante en français, bien sûr. Et Florent Marchais, bah voilà, c'est un personnage sur scène, vraiment, c'est plus qu'un concert. C'est-à-dire sur scène, d'abord, il y a tout un décor, un décorum. Voilà, on a l'impression qu'on est chez lui. Il y a un barbecue. Enfin voilà, il se passe plein de choses sur scène. Et on entre dans son intimité et il chante ses chansons. On va en écouter une. J'ai choisi En famille, puisqu'on est autour des fêtes de Noël et du 31 décembre. Et que je trouve que ce titre fonctionne assez bien.
Jour de fête Montargis, quelques heures un samedi, on aura beau chanter. On est aveugle et sourd, on avance à pas lourd sur un terrain miné. En famille, en famille. Comme c'était joué d'avance, ton frère a moins de chance, et puis chacun sa place. Dès la première bouteille, il fait rarement soleil. On s'embrasse, on s'agace. En famille. En famille. En famille. s'accuse, on s'empoigne. Au mieux on fait semblant. Dans le train régional, on est bien matinal. On reste pas longtemps en famille. 40 ans, les calmants et des heures de divan. Se sentir écrasé. 18 ans sur le ring, cheveux bleus et piercing. On fait rien à moitié en famille. En famille. En famille. De vies empêchées, de réveillons gâchés. Jamais rien qui éclate. Parfois désobéir, j'ai quelque chose à vous dire. On est rouge écarlate en famille. Se chercher, s'adoucir pour ne pas devenir l'oncle qu'on détestait. Un soir ça vous rattrape, un mot qui vous échappe. On n'a jamais la paix en famille. En famille. En famille. En famille. Des gosses insupportables, comme ils se tiennent à table. J'aurais pas fait comme ça. Sous la véranda, le café un peu froid. On est rarement chez soi en famille. Un matin, on est mal, téléphone hôpital et les épaules qui tremblent. On se serre dans les bras, oh merci d'être là. Dire qu'on est tous ensemble en famille. En famille. En famille.
En famille de Florent Marchais, issu de son dernier album Garden Party. Je ne sais pas si vous avez écouté attentivement les paroles. Hein. En famille, tant de vie empêchée, de réveillons gâchés, jamais rien qui éclate, parfois désobéir, j'ai quelque chose à vous dire, on est rouge écarlate en famille. Donc je ne sais pas comment vont être vos fêtes de Noël, mais souvent il y a quand même le tonton un peu rasseau qui est un peu pénible et ça fait un peu éclater quelques conflits au sein des familles. Alors il n'y aura pas que Florent Marchais, il y aura aussi une artiste assez confirmée, mais dont vous connaissez peut-être pas le nom, enfin sous ce nom-là, Aurélie Saada. Ça vous parle ? Pas du tout. Vous l'avez connue en duo, un duo qui a beaucoup marché, qui s'appelait Brigitte, les Brigitte. Et donc maintenant, elle fait une carrière solo, et elle vient de sortir un album qui s'intitule Bomboloni. Et c'est assez réussi, c'est très très dansant et sur scène ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis pour finir, alors là il y a un ovni qu'on a déjà vu récemment au festival Nouvelle Voix de Villefranche-sur-Saône, un artiste belge qui s'appelle Pierre de Mer. Alors là, attendez-vous quand même une grosse claque scénique, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. C'est quelqu'un d'assez jovial, très jeune, voilà. Peut-être que vous avez entendu une de ses chansons qui a bien marché, qui s'intitule « Un jour, je marierai un ange ». Mais là, il vient de sortir un nouveau titre, là, cette dernière semaine, qui s'intitule « Les oiseaux », parce que son premier album va sortir en janvier, le jour même du festival, le 27 janvier, son album sort, « Regardez-moi ». C'est le titre de l'album. Et là, ce titre extrait là, qu'on voit sur YouTube, il a sorti un clip assez extraordinaire qui s'intitule donc, Les oiseaux. C'est un plan séquence. Ça se passe pendant la guerre de 14-18. Il est en soldat de la guerre de 14. Et c'est bien mieux que le film 1917. Donc voilà. Donc une programmation qui est vraiment extraordinaire. Et puis pour conclure, il faut insister aussi sur les prix de ce festival. Pourquoi ? Parce que une soirée, plein tarif, c'est 18 euros. Et si vous venez pour deux soirées, le pass deux soirées, c'est 28 euros. Donc franchement, c'est des sommes assez modiques par les temps qui courent. Et je trouve que c'est un bel effort que fait ce festival. Donc je rappelle les dates. Le Festival des Nuits Juvrées, les 26, 27 et 28 janvier, 28 janvier 2023, aux Aqueducs de Dardilly. Et il faut y aller absolument.
Merci beaucoup Guillaume. Effectivement, c'est un bel endroit en plus, les Aqueducs, et c'est toujours très sympa.
Oui, et puis j'ai oublié de le dire, mais bon, c'est pas grave, les gens iront voir sur le site internet du festival. Il y a aussi, pendant le festival, il y a un vernissage d'une exposition avec pas mal d'artistes de la région,
ouais,
dans tous les domaines, street art, photographie.
Ouais,
donc,
c'est
voilà,
toujours un grand
moment.
C'est
un lieu très chaleureux, en fait. Voilà,
ouais,
tout
absolument.
À fait. Ils accueillent très bien les artistes. Les artistes sont enchantés de ce lieu.
On les remercie. Un petit rappel, tout début janvier, pour que nos auditeurs n'oublient pas. Merci beaucoup, Guillaume. Gaëlle, cette semaine, tu nous entraînes à nouveau dans une aventure incroyable pour explorer l'univers de Toutankhamon. Alors oui, c'est vrai, ça fait un petit moment qu'il est déterré, mais enfin, il est quand même de retour à la sucrière.
Effectivement, je vous ai déjà parlé d'égyptologie avec le musée des Beaux-Arts. Et là, vous avez donc l'exposition Toutankhamon à la découverte du pharaon oublié à la sucrière. Souhaitez-vous vivre l'une des plus grandes explorations archéologiques? Cette exposition dédiée à la découverte du tombeau de Toutankhamon, pharaon à 8 ans et mort à 18 ans, est une expédition idéale à faire en famille pendant les fêtes de fin d'année. L'audioguide, très bien conçu et directement mis à disposition en début de visite, permet de marcher dans les pas de l'archéologue Howard Carter lors de son incroyable épopée. Le rôle du mécène d'Howard Carter, Lord Carnarvon, est également largement abordé. Les personnages vous racontent en voix off leurs recherches, doutes, déconvenues et enfin, en point d'orgue, la découverte du tombeau de Toutankhamon le 22 novembre 1922, puis quelques jours plus tard, l'ouverture effective du tombeau lui-même. Les nombreuses pièces exposées sont des répliques, notamment créées par la Supreme Council of Antiquities Replica Production Unit du musée du Caire, des copies d'artefacts, certes, mais qualitatives, car signées par de grandes institutions. Pour qui aime jouer les Indiana Jones, l'équipée demeure foisonnante. La reconstitution de la salle du tombeau lui-même est servie par une scénographie assez spectaculaire. L'exposition offre une visualisation matérielle de tous les objets enterrés avec le jeune pharaon afin qu'il puisse bénéficier d'un meilleur séjour dans l'au-delà. Nourriture, chars, armes nécessaires pour écrire, rien ne manquait. Et rien ne manque dans l'exposition Toutankhamon à la découverte du pharaon oublié, puisque à chaque fois vous voyez des copies. Donc, vous aurez en face de vous tous les objets qui étaient donc dans le tombeau du pharaon. Les organisateurs Tempora pour la réalisation et Europa Expo pour la conception mettent en avant la précision et la fidélité des reconstitutions. Le but, d'ailleurs atteint, étant de créer une atmosphère où les copies ne desservent ni la magie de l'exploration archéologique, le masque d'or du pharaon est à ce titre éloquent, ni le volet didactique, car tous les objets reconstitués, exposés, nous éclairent aussi sur l'Égypte ancienne, ses rites, ses croyances et l'organisation de la vie quotidienne. Vous découvrirez également les techniques de momification, une reconstitution du vrai visage de Toutankhamon, une présentation d'un arbre généalogique du pharaon et un panorama des dieux. Enfin, visitez bien l'espace consacré à l'atelier de Toutmose, le fameux sculpteur de la royauté, auteur du buste de Néfertiti, dont vous découvrirez toutes les étapes de sa conception. Pour avoir vu, lors de ma visite, les étoiles dans les yeux des enfants, je recommande vivement de faire cette exposition pendant la période des fêtes, et plus encore, puisqu'elle se termine le 24 avril 2023. Plus d'informations sur expo-toutankhamon.com.
On peut compléter, il me semble qu'il y a un autre événement lié à l'Égypte, à Confluence, dans le centre commercial, puisque Il y a un événement qui s'appelle l'Horizon de Khéops, comment on appelle ça, une expérience en réalité virtuelle, voilà, et je crois que c'est encore accessible,
ouais,
il me
absolument.
Semble, et ça complète, mais vraiment c'est un truc avec un casque, voilà, et on a l'impression d'être dans l'Égypte antique, donc voilà, faut taper l'Horizon de Khéops, centre commercial Confluence, et vous avez une page dédiée à ça.
Merci beaucoup Guillaume. D'ailleurs, tu vas enchaîner avec ton Gédéon, comme ça, garde le micro. Tu vas enchaîner donc avec ton Gédéon. De quoi vas-tu nous parler cette semaine ?
Alors moi, je vais vous parler de la deuxième partie de saison de l'Opéra Underground. Donc l'Opéra Underground, c'est à l'Opéra de Lyon, mais c'est la salle qui se trouve sous la grande salle de l'Opéra, qui est donc dirigée par Richard Robert. Et donc, il y a eu cette présentation de la deuxième partie de saison. Alors je ne vais pas vous faire la litanie de tout ce qu'il nous propose, parce que c'est khéopsien, je ne sais pas, c'est une avalanche de concerts. Mais je voulais insister sur quelques-uns, parce qu'il y a un artiste qui va venir début janvier, le 14 janvier et le 15 janvier, un artiste catalan qui s'appelle Pascal Comlade, et qui va venir créer quelque chose d'assez unique. Mais bon, tous les concerts de Pascal Comlade sont uniques. Un concert intitulé « 4 réducteurs de piano ». Il faut savoir que ça va être pendant un moment de l'Opéra Underground, intitulé « Piano Underground ». Il va y avoir beaucoup de pianistes qui vont venir. Mais là, Pascal Comlade est pianiste. Bon, il est multi-instrumentiste, il joue tous les instruments. Mais là, ça va être précisément sur le piano. Moi, je vous invite à aller voir ses concerts. C'est un monsieur complètement farfelu, mais farfelu au sens vraiment noble du terme. Il vient de sortir un album qui est absolument génial, qui s'intitule « Le non-sens du rythme ». Alors, pour un musicien, c'est quand même assez exceptionnel, « Le non-sens du rythme ». Et juste comme ça, pour vous dire que son univers, c'est un petit peu comme si on entrait dans le palais des glaces d'une fête foraine. Voilà, c'est quelque chose d'assez drôle et en même temps touchant. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé, bon, il a une grosse carrière, il a fait plus de presque 50, 70, qu'on ne les compte plus. Il a travaillé avec Pete Jarvis, avec Robert Wyatt, avec des gens comme ça très très connus. Et son dernier album, juste pour vous donner l'eau à la bouche, il faut aller écouter ce disque, qui est peut-être un de ses plus accessibles. Il y a des titres comme « Apparition du visage de Bela Lugosi sur une tranche de salami ». Vous voyez un petit peu hein, les images qui peuvent se créer. Ensuite, il y a un autre titre aussi, « Cimetière de la photographie ». Musique hypertrophique des remontoirs. Alors, c'est de la musique instrumentale. Il y a peu de chants. Alors, je disais tout à l'heure qu'il avait travaillé avec Robert Wyatt et Pete Jarvis. Là, il y avait des chansons, mais ça remonte à une trentaine d'années, 25 ans. Mais voilà, donc c'est vraiment un artiste exceptionnel. Et pourquoi c'est un Gédéon, cet opéra underground ? C'est qu'en plus, eh bien, ils ont un format où vous pouvez acheter pour 30 euros un abonnement. Enfin, ce n'est pas vraiment un abonnement, mais avec 30 euros, vous pouvez aller voir 3 spectacles de la programmation jusqu'au mois de juin. Et franchement, 30 euros par les temps qui courent pour faire 3 concerts, excusez-moi, mais c'est quand même, c'est royal, quoi. Hein, parce que quand on voit que dans certaines salles lyonnaises, qu'on ne citera pas, ça peut être 45, 50, 60, même 100 euros. Bon, ben voilà, 30 euros, c'est formidable, c'est l'Opéra Underground, et donc il faut y aller. La nouvelle programmation est disponible un petit peu partout en version papier, les concerts de janvier à juin 2023.
Merci.
Et allez voir Pascal Comlade le 14 et le 15 janvier, parce que vraiment, vous allez prendre une grosse claque.
Merci Guillaume. Gaëlle, peut-être un petit Gédéon pour finir cette année en beauté.
Un petit Gédéon axé sur le désir. Que vaudrait une vie sans désir ? Car le désir constitue le moteur de nos existences. Une vie sans désir est une dépression. Mon Gédéon de la semaine est le livre « Le désir, une philosophie » de Frédéric Lenoir aux éditions Flammarion. Le désir peut emprisonner tout autant que révéler. Le désir qui emprisonne est celui qui nous pousse à vouloir toujours plus, acquérir encore et encore. L'insatisfaction est donc permanente. Nous sommes en outre constamment assiégés par le mimétisme social. Mon voisin a une nouvelle voiture ? Je veux une nouvelle voiture. Souhaitez-vous le nom du coupable pour vous dédouaner ? Notre cerveau primaire, le striatum, sans limite, il ne sait pas dire stop. Il existe cependant un autre désir, celui qui nous révèle. Son intensité nous pousse à agir et donne le sentiment d'être pleinement vivant. Pour vivre aux éclats, comme le suggère le philosophe Frédéric Lenoir, il faut impérieusement distinguer l'être et l'avoir. le désir infini dans l'être est ce vers quoi nous devons cheminer. Seul lui nous met en mouvement, nous procure élan vital et joie. Contrairement au désir infini dans l'avoir, qui engendre d'incessantes insatisfactions. Souhaitiez-vous véritablement une nouvelle voiture comme votre voisin ? Spinoza, que Frédéric Lenoir apprécie tout particulièrement, et l'un de ses disciples, Bergson, ou encore Platon, René Girard, Bouddha, Aristote, Épicure, Nietzsche, Jung. Dans son ouvrage, Frédéric Lenoir dresse un panorama des grands penseurs du désir, compilation élargie d'une relecture faisant écho à notre monde contemporain. J'ai récemment assisté à une conférence donnée par Frédéric Lenoir, une rencontre organisée par Augurart Productions à l'UCLI, place des Archives. Sylvain Tesson ou Charles Pépin ont d'ailleurs déjà fait partie de leurs invités. En janvier prochain, une masterclass donnée par David Fuenquinos autour de son parcours et de son écriture est par exemple programmée. Les personnes intéressées iront consulter le site augurartproductions.com. Bon, c'est bientôt Noël. Voilà deux petits cadeaux de la part de Bergson pour cultiver votre élan vital. Allez dans la nature et ou pratiquez une activité en relation avec la créativité, le summum étant l'art. Vous connaîtrez ainsi les bienfaits du désir infini dans l'être et non pas dans l'avoir. Je rappelle les références du dernier livre de Frédéric Lenoir, Le désir, une philosophie, aux éditions Flammarion.
Pour moi, cette semaine, il s'agit de vous proposer de rompre avec la soirée cotillon de belle maman pour entraîner votre chérie ou vos amis à l'opéra pour la soirée Réveillon à Broadway. En effet, proposé par Wayne Marshall, qui mène les festivités du Nouvel An, pianiste, chef d'orchestre, organiste, Wayne Marshall est un musicien inclassable, grand connaisseur de Leonard Bernstein et de George Gershwin, qui sillonne le jazz et les musiques populaires, comme les répertoires symphoniques. Le passage à 2023 aura le rythme et l'audace de la musique américaine. L'orchestre de l'Opéra de Lyon et les solistes de Lyon Opéra Studio vous proposent une soirée au son des standards qui vous donnera envie de chanter sous la pluie ou de rencontrer un Américain à Paris. Bref, une soirée pour se mettre du bon son entre les deux oreilles. Réservation conseillée, évidemment. Et si toutefois il n'y avait plus de place, il reste une valeur sûre, les fêtes féeriques du Théâtre des Célestins. Une très belle façon de finir l'année en beauté avec toute votre famille. Il y en aura pour tous les goûts. Arlequin poli par l'amour, c'est pas beau ça, de Marivaux, mise en scène par Thomas Joly. Une version chatoyante par le metteur en scène de Starmania, rien que ça. Beaucoup de bruit pour rien, on reconnaît William Shakespeare bien sûr, mise en scène par Maya Sandoz et Paul Moulin. Toute la vivacité, la drôlerie, l'expansivité du théâtre de Shakespeare, je vous le conseille, c'est inratable. La presse en parle, la pièce laisse exploser l'humour, le burlesque, la fantaisie sur un rythme endiablé. Et ça, c'est signé Lacroix. Je peux vous dire que vraiment, beaucoup de bruit pour rien, je l'ai vu, et c'est vraiment très, très, très efficace. Enfin, le carnaval jazz des animaux, rien que ça, The Amazing Keystone Big Band, une version peu conventionnelle qui restitue l'humour caustique de l'œuvre originale. Un conte musical pour les petits et les grands. Je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Vous pouvez emmener les enfants à partir de 5 ans, c'est à partir du 19 décembre. Et puis enfin, Gretel, Hansel et les autres. C'est pas beau ça, moi ça me rappelle toute mon enfance, Hansel et Gretel, mais quel merveilleux conte. Les frères Grimm, mis en scène par Igor Medzinski, à la fois voyage initiatique en forêt et enquête policière, un spectacle drôle et émouvant à hauteur d'enfant dès 7 ans. Moi je vous conseille effectivement de zioter du côté des fêtes féeriques aux Célestins. Vous avez compris, il n'y en a pas que pour la Saint-Sylvestre, il y en a pour toute cette fin d'année. À partir du 15 décembre jusqu'au 31 décembre, il y a une très belle programmation au Célestin. Là encore, les places ne sont pas très chères. Il faut absolument sortir de la convention, bien sûr, d'une Saint-Sylvestre cotillon
et veste à paillettes que nous célébrons également. En tout cas, on est ravis de vous souhaiter d'ores et déjà de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et merci de nous être fidèles. On vous donne rendez-vous, bien sûr, l'année prochaine. Bye bye.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.